cette semaine, dans l'épisode qu'on va entendre, tu vas avoir accès en fait à une collaboration que j'ai faite pour le COIMF, qui est le comité organisateur qui balise la médiation familiale au Québec. C'est d'ailleurs, en fait, dans ce comité que j'ai été vice-présidente pendant un an et que j'ai contribué pendant à peu près de 2 ans. J'ai maintenant décidé de quitter ces fonctions pour pouvoir être dans d'autres projets. Mais la médiation et l'évolution de cette pratique demeurent vraiment importantes pour moi. Dans cette discussion que vous allez entendre, en fait, entre moi et Caroline, qui est aussi une médiatrice familiale et qui est aussi psychologue, on va s'entretenir justement sur comment on peut utiliser la parole de l'enfant? Comment on peut écouter son enfant puis l'impliquer dans les prises de décision sans que l'enfant ait l'impression qu'il porte le fardeau décisionnel qui peut parfois être lourd quand les parents se chicanent? Ou encore, de le garder dans son rôle d'enfant pour que ce dernier n'ait pas l'impression qu'il est omnipotent, que c'est lui qui détient la loi et que c'est lui qui décide, par exemple, dans un contexte où est-ce qu'on aurait des adolescents qui ont envie de tout décider, eh bien, parfois, il faut quand même être en mesure que, comme parents, on garde notre autorité. Par contre, comme on l'a pu l'entendre dans l'épisode avec Lorraine Filion, si tu ne l'as pas déjà écouté, je t'invite vraiment à y aller. La parole de l'enfant, elle est importante. La considération, son opinion, sa vision, sa perception, elle est primordiale. C'est sa vie dont il est question en grande partie. Donc, son input est tout à fait noble. Maintenant, il faut après ça le réintroduire dans une discussion d'adulte pour après ça prendre une décision. Alors, moi et Caroline, on vous propose différentes stratégies en lien avec différents exemples pour être en mesure de pouvoir arriver à prendre ce genre de décision. Je t'invite à me laisser tes commentaires puis à m'écrire parce que sache que ça me touche énormément quand je reçois des commentaires. Et tu sais aussi, si c'est possible, de pouvoir partager, mettre des étoiles, laisser une note sur ta plateforme préférée, ça aide vraiment à faire connaître le podcast et faire en sorte qu'il puisse peut-être aider d'autres familles. Alors, je te remercie et je te souhaite une belle écoute.
Bienvenue à S'équiper pour se séparer, le balado qui traite de médiation familiale. Lorsqu'un couple avec enfants se sépare, il est important de clarifier les responsabilités décisionnelles de chacun ou chacune. La médiation familiale peut vous aider dans cette étape importante. Pour en savoir plus, Caroline Paquet, psychologue, conseillère d'orientation et médiatrice familiale, nous raconte une situation pour laquelle elle a réalisé une médiation de couple avec enfants.
Donc, on va imaginer l'histoire de Jacques et Antonio. C'est deux hommes qui ont fait une vie de couple pendant une quinzaine d'années. Ils se sont séparés il y a 3 ans. Ils ont convenu d'une garde partagée de type 7-7, donc du vendredi au vendredi, pour leurs 2 enfants, Louis, qui a maintenant 11 ans, et Juliette, l'adolescente de 14 ans. Jacques est salarié, travaille comme électricien, il vit en famille recomposée avec un nouveau conjoint qui lui aussi a un enfant. Quant à Antonio, lui, il est célibataire, il est travailleur autonome et comptable. Ils ont en ce moment des difficultés au niveau de leur communication, particulièrement quand vient le temps de prendre des décisions concernant Louis et Juliette. Les décisions qui font l'objet là, de conflits en ce moment, c'est particulièrement le choix de l'école secondaire de Louis. Il y a aussi au niveau de l'achat des vêtements, là, surtout pour Juliette, et les inscriptions aux différents loisirs et activités parascolaires.
En quoi consiste le partage des responsabilités décisionnelles? Cynthia Girard, psychoéducatrice et médiatrice familiale, et Caroline Paquet nous expliquent.
En fait, le partage des responsabilités décisionnelles, ça concerne toutes les décisions que les parents vont devoir prendre de façon commune, qui concernent bien entendu leurs enfants. On peut penser, en fait, à tout ce qui va découler de l'autorité parentale. Donc, par exemple, les soins de santé, l'inscription et tout ce qui appartient, en fait, aux aspects scolaires, les inscriptions des loisirs, les choix d'activités parascolaires, les achats de vêtements. Donc, bref, c'est tous, en fait, qu'est-ce qui va souvent être appelé les responsabilités parentales. Vous savez, cette fameuse charge mentale dont on entend souvent parler.
Absolument. J'ai vu plusieurs cas de figure au niveau du partage du temps de vie des enfants, puis le piège que font souvent les parents, c'est de penser que Par exemple, si on est dans une garde principale, disons à la mer, qu'on appellerait une garde exclusive, de penser que dans ces cas-là, c'est ce parent-là qui va prendre toutes les décisions. Ben, c'est une grave erreur. Les deux parents doivent être impliqués dans la vie puis dans la prise de décisions qui concernent les enfants. C'est sûr que ça va jouer un petit peu en fonction du partage du temps de vie, mais les décisions essentielles qui concernent la santé, l'éducation, les loisirs et la religion, ben ça, on peut pas passer à côté. On doit vraiment faire ça ensemble dans la coparentalité, même si des fois c'est difficile, même si des fois on aurait plus le goût de faire ça solo puis de pas consulter l'autre parent parce que pour toutes sortes de raisons, ça nous tente pas.
Oui, puis des fois, en fait, Caroline, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais la limite entre justement rentrer dans la vie privée de l'autre versus qu'est-ce qu'on va devoir, en fait, partager, si je pense, exemple, à le temps d'écran ou qu'est-ce que le parent va donner au niveau alimentaire. Ça fait quand même partie du respect que je dois avoir envers le style de coparentage de mon coparent. On peut prendre des décisions qui vont être communes sur certains aspects pour être similaires, peut-être, mais on doit accepter que l'autre est différent et que ça a du bon pour notre enfant aussi.
Tu as parfaitement raison, Cynthia. Tu sais, ce que des fois j'essaie de voir en médiation avec mes clients, c'est que c'est pas parce qu'on parle d'un sujet qu'on est obligé de penser la même chose que l'autre. Donc, ça se peut qu'on se parle ensemble, qu'on échange autour du temps d'écran, puis là, on est dans la distinction entre prendre des décisions puis transmettre de l'information. Puis c'est intéressant de savoir comment ça gère le temps d'écran dans l'autre maison, puis peut-être qu'à partir de là, on va s'ajuster. Peut-être que pas aussi, mais ça va permettre aux enfants d'avoir une vie qui se continue dans les deux maisons plutôt que d'avoir deux vies parallèles.
Ce qui veut donc dire que peu importe la modalité, en fait, de temps parental, peu importe comment on se porte mutuellement dans son cœur, on n'aura pas le choix de communiquer. On va devoir se parler pour prendre des décisions puis échanger de l'information pour le mieux-être de nos cocos.
Bien, effectivement. Puis, ce qui est intéressant dans la médiation, c'est qu'on va les aider à développer des outils pour prendre des décisions ensemble. Spontanément, les gens ont tendance à avoir une négociation sur position. Moi, je veux ça, moi, je veux ça, puis on tire chacun notre bord de la couverte. Puis, en médiation, on leur apprend à réfléchir à c'est quoi le besoin de Louis? C'est quoi le besoin de Juliette? C'est quoi votre besoin à vous, monsieur? Et après ça, bon, ben une fois qu'on a regardé ces besoins-là, ça serait quoi les meilleures options pour répondre à ces besoins-là? T'sais, si je prends l'exemple du choix d'école pour le petit Louis, ben ça va être quoi les besoins de Louis pour son choix d'école? Ben c'est quoi les besoins d'Antonio? Ben là, moi, Antonio, il faut que je puisse aller au travail, puis si le transport est trop loin, ça fonctionnera pas. Puis ça va être toi, pourquoi, Jacques, tes besoins? Ben moi, j'aurais besoin là de pouvoir être disponible le soir parce que des fois, je travaille le soir. Donc, toutes ces choses-là, on va prendre ça en considération pour faire un choix d'options qui va répondre le plus possible aux besoins de tout le monde.
Quelles sont les modalités possibles de communication entre les parents pour les soutenir dans le partage des responsabilités?
Quand on a un père puis une mère qui ont une bonne capacité d'entente, ou deux pères ou deux mères, là, ben dans ce temps-là, le mieux, c'est d'être capable de se parler, de se rencontrer, de discuter, d'échanger. Donc ça, c'est la formule naturelle. Et il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Faut pas sous-estimer les capacités des parents. Malheureusement, il y en a pour qui ce n'est pas possible. Des fois, temporairement, parce que la crise de la séparation est trop au vif, puis pendant un certain temps, on a besoin de prendre des distances. Et d'autres fois, pour toutes sortes de raisons, ce ne sera jamais possible. Mais l'important, là, c'est pas qu'on soit les plus grands amis du monde. Tant mieux, c'est un bonus si on y arrive. Mais c'est d'avoir une communication fonctionnelle. Donc, si on n'est pas en mesure d'avoir cette communication directe-là, par exemple, de transmettre un courriel à la fin de chacune des périodes de temps de vie avec des informations, des questions pour aller vers une prise de décision, ça pourrait être très bien. Puis on pourrait se dire, ben on va se parler seulement quand on aura des décisions importantes à prendre, on se donnera un rendez-vous téléphonique puis on va se centrer. Ça s'apprend puis ça s'entraîne. Puis avec de l'aide, on peut y arriver puis que ça devienne fonctionnel.
En médiation familiale, justement, on va aider les parents à établir, en fait, quelle est la meilleure modalité de communication pour arriver à maintenir cette coparentalité fonctionnelle. Tu as dit le mot fonctionnel, et il est extrêmement important parce qu'effectivement, on veut pas être en guerre, on veut pas non plus être les meilleurs amis, on veut demeurer les parents des enfants. Et des fois, les parents vont avoir peut-être un mythe, je trouve, des fois, que on devrait continuer à se parler juste par texto ou par écrit parce qu'on ne veut pas que ça s'envenime, des fois, comme avec si on se parle de vive voix ou quoi que ce soit. Mais en fait, l'écriture amène des pièges et des embûches. Moi, des fois, j'aime ça dire aux parents de ne pas oublier que quand tu écris uniquement quelque chose, tu ne vois pas le non-verbal, tu n'entends pas le ton de l'autre personne, tu ne vois pas son faciès. Et parfois, ben, quand j'ai juste un message, je peux être teintée de mon histoire aussi que j'ai eue avec cette personne-là. Donc, quand on est capable de reprendre une communication verbale, ou est-ce qu'on peut aller, par exemple, dans un milieu neutre pour aider à éviter les escalades ou de venir se parler dans le bureau du médiateur, par exemple, pour arriver à développer justement ses habiletés pour être en mesure de réussir sa communication qui va être, par exemple, de décider quelque chose.
En fait, je suis partiellement d'accord, Cynthia. C'est vrai que c'est mieux de pouvoir se parler, mais moi, je travaille avec des gens là qui vivent des séparations difficiles et parfois très conflictuelles, puis il y a des gens pour qui ça ne sera pas possible. Là où j'ai bien de la difficulté, là, c'est avec les textos. Le texto, là, ça part vite. Puis des fois, j'ai vu des parents que c'était leur seule modalité de communication. Puis quel piège! Si j'ai la moindrement la tendance à être impulsif ou impulsive, ben j'envoie mon message, j'y pense, je veux pas l'oublier. Mais ça devient l'autre qui est le réceptacle de tous ces messages-là. Puis il y en a des fois qui deviennent envahis. Puis là, ils sont tellement envahis qu'ils bloquent toute la communication et on s'en va dans des situations qui sont absolument pas dans l'intérêt de l'enfant. Donc, d'avoir un cadre puis d'installer une modalité qui soit fonctionnelle puis efficace pour tout le monde, ben c'est vraiment un beau cadeau à faire aux enfants puis aux parents aussi, parce que quand ça se passe bien dans cette communication-là, c'est un très gros stress de moins.
Puis il existe différentes applications qui peuvent être possibles pour les parents séparés, qui peuvent aider justement aussi des fois à centraliser en fait ce qui appartient à ma coparentalité à un seul endroit, parce que parfois, ça peut devenir envahissant. T'sais, si je reçois un texto, je reçois un courriel, je reçois un appel téléphonique, ouf, ça se peut que ça soit un peu fatigant, là, puis que j'ai besoin de prendre une pause. C'est correct d'avoir des limites par rapport à ça.
Oui, puis d'être capable de voir que la relation de coparentalité qu'on est en train de développer, c'est un peu le type de relation qu'on aurait dans un contexte d'affaires. On va avoir une petite gêne, une retenue, une politesse, une courtoisie. De commencer un message par « Bonjour Jacques, bonjour Antonio, merci beaucoup pour ceci ou pour cela », ça a toujours sa place parce que, tu sais, quand on investit, là, on sème des petites graines, ben ça permet de récolter quelque chose. Puis si on investit dans des choses qui sont très directives puis très secs, ben c'est probablement ce qu'on va récolter également.
Que s'est-il passé avec Jacques et Antonio dans leur processus de médiation familiale?
Après quelques rencontres de médiation familiale, les papas sont arrivés à différentes ententes. Par exemple, le sujet qui entourait le partage des achats des vêtements, surtout pour Juliette. Vous devez comprendre que Juliette est une jeune adolescente qui était très autonome et qui était très mature, parce que la solution qu'ils ont trouvée ne s'applique pas nécessairement à toutes les situations. Depuis le début, chacun d'eux assumait en fait l'achat de leurs vêtements quotidiens, à part les vêtements qui devaient transiter d'une maison à l'autre, là, commun, comme par exemple le manteau d'hiver. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont établi un budget avec un inventaire de ce qui leur apparaissait comme étant raisonnable pour justement les besoins de Juliette. Et ils avaient une option de pouvoir mettre cet argent dans un compte enfant et qu'ils pouvaient payer, régler en fait les dépenses associées à ça par ce compte-là. Mais dans leur contexte à eux, ils ont décidé en fait de donner cet argent-là à leur fille qui allait justement pouvoir aller acheter ses propres choses en fonction du budget qui était établi, parce qu'elle avait cette capacité-là, là, cette jeune fille. Caroline, as-tu envie d'ajouter quelque chose?
Que Juliette était extrêmement contente parce qu'elle adore aller magasiner avec ses amis. Mais rapidement, elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle respecte le budget. Puis là, ben, ça a été plus difficile. Mais oui, ça permet de faire des apprentissages aussi pour les enfants, là, cette confiance-là des parents. Moi, j'ai le goût de vous parler de ce qu'ils ont pris comme entente concernant le choix d'école de Louis. Alors, ils ont eu vraiment le souci de ne pas placer ce jeune homme-là dans un conflit de loyauté, puis de dire, ben moi, je voudrais que tu ailles là, puis moi, je voudrais que tu ailles là, puis que l'enfant se sente tiraillé entre les deux. Mais non. Ils ont été bien sages. Ils ont fait la liste des besoins de leur fils, de leurs besoins à eux aussi. Par exemple, que l'école soit à une distance raisonnable pour maintenir la garde partagée, que ce soit une école qui réponde bien au désir de Louis, qui avait envie d'un programme qui offrait du sport-études. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait deux écoles, pas tellement loin de leur domicile, qui pouvaient répondre à ces critères-là. Ils ont donc dit à Louis, ben voici Louis, tu vas devoir choisir entre ces deux écoles-là, puis il va nous faire plaisir d'aller participer aux portes ouvertes, visiter ça avec toi, puis par la suite, quelle que soit ta décision, nous respecterons ton choix parce qu'on est d'accord avec ces deux options-là. Alors ça a donné là un contexte très harmonieux pour cet enfant-là qui a pu choisir son école secondaire sans stress.
Puis ce qui ont été vraiment fabuleux, ces papas-là, en plus dans l'exemple, c'est justement, c'est qu'ils ont tout épuré les choix d'école qui n'étaient pas possibles. Par exemple, ils ont dû exclure les écoles privées parce qu'ils n'étaient pas en mesure, la famille, de se l'offrir. Donc, même si Louis avait dit « moi, je veux aller à la même école que mon ami », ça n'aurait pas été possible parce que c'est l'option A et B qui t'est offerte.
Bien, parce que c'est un Louis là, qui était habitué d'avoir beaucoup d'activités de loisirs là, depuis qu'il est tout petit, hein, qui est habitué de faire du piano, de faire du karaté.
Oui, absolument. Puis d'ailleurs, ça a été un sujet qui, je trouve, exprime bien la limite entre la vie privée et justement les décisions communes. Bien, Louis avait effectivement depuis toujours participé à plusieurs activités, mais en fait, lorsque Jacques en fait, a été en famille recomposée, sa réalité a changé au niveau de l'horaire, au niveau aussi financier. Bref, il y a eu des changements aussi associés à ça qui sont tout à fait normaux et que par rapport en fait à Antonio, de son côté, étant encore célibataire, pouvait encore avoir le même rythme finalement qui était déjà installé depuis quelques années. Ils s'entendaient en fait sur le fait que la natation, par exemple, c'était important pour tous les deux parce qu'on va apprendre à nager, ils veulent qu'ils soient en sécurité, tout ça. Par contre, au niveau du piano, bien, ils ont décidé en fait que ça allait être plutôt Antonio qui allait continuer en fait à lui offrir de façon occasionnelle, qui lui aussi avait d'ailleurs un intérêt associé à ça. Puis avec Jacques, bien, de son côté, avait des possibilités de pouvoir avoir des cours de karaté avec les autres enfants de son nouveau conjoint et de façon aussi sporadique, donc sans nécessairement avoir une inscription qui engage nécessairement les deux. Alors, ils ont été avec ça. Et en plus, pour notre Louis, il a appris le ski parce que dans la famille de Jacques recomposée, bien, il y avait là, la possibilité dans les week-ends d'hiver d'aller faire cette activité. Donc, il va rester stimulé, ce beau Louis, mais tout en respectant aussi les nouvelles réalités des parents.
Nos deux professionnels terminent en nous rappelant l'importance de l'écoute dans un processus de médiation familiale.
Je trouve que c'est une belle histoire, l'histoire de Jacques et Antonio, parce qu'ils ont investi beaucoup d'énergie à développer une saine coparentalité, que ce soit pour se transmettre des informations ou prendre des décisions. Et pour moi, c'est ça, réussir sa séparation.
Comme parent, je trouve que c'est pas toujours évident d'arriver à départager ses propres besoins de ceux de ses enfants, parce que les émotions, nos besoins comme adultes, comme parents, sont aussi importants que ceux de nos enfants. Donc, quand on arrive à le faire, bien, je trouve que c'est une réussite. Puis Antonio et Jacques nous l'ont bien démontré aujourd'hui.
Merci à nos deux médiatrices familiales, Caroline Paquet, psychologue et conseillère d'orientation, et Cynthia Girard, psychoéducatrice, pour leur participation à ce balado. Pour trouver un médiateur ou une médiatrice familiale au Québec, rendez-vous sur le site Internet du Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, coamf.org. N'oubliez pas, vous pourriez être admissible à des heures de médiation familiale gratuites grâce au programme du gouvernement du Québec. Bonne médiation. Ce balado est réalisé pour le CoAMF avec la participation financière du gouvernement du Québec.
Phonique. Le fin son de l'histoire.